Merci, mon ami Clément, de m'avoir proposé ce passage, ou plutôt imposé ce passage. Bon, parce que lui, il ne voulait pas prêcher là-dessus. Non, je ne sais pas, mais... Le problème avec ce passage, c'est qu'il se divise dans deux parties bien distinctes. Et il est difficile de trouver un titre qui englobe les deux aspects, les deux points principaux de ce passage. Donc, je n'ai pas trouvé mieux que la place primordiale de la prière et le rôle de la femme dans la vie de l'Église locale. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ce passage. C'est un sujet, donc, la première partie, je pense que pour la prière, il n'y a pas trop de difficultés, mais c'est plutôt à partir du verset 9. Et je pense, finalement, ça ne va pas poser tant de problèmes que cela. Je vous invite à prier avant d'aborder ce passage. Mon Père Céleste, je te bénis parce que tu es le Dieu qui nous a donné ta parole à travers les 40 et davantage écrivains qui ont été inspirés par ton esprit pour nous donner ce que nous trouvons dans ce livre. Je te remercie, Seigneur, pour cette première lettre à Timothée, jeune pasteur responsable même de plusieurs églises, qui avait besoin aussi d'être suivi dans son enseignement, qu'il avait déjà reçu de l'apôtre Paul en direct, mais encore plus dans ces deux lettres qui portent son nom. Je prie, Seigneur, afin que ce message soit clair pour chacun. Je te remercie de m'avoir permis d'étudier ce passage pendant cette semaine derrière nous. Je te remercie, Seigneur, pour la possibilité que tu me donnes aussi d'annoncer cette parole, et je veux vraiment que ce soit toi qui l'annonce à travers ma bouche, oui, mais je ne veux pas donc faire du tort à ta parole. Je veux l'annoncer clairement et j'invoque la présence de ton Saint-Esprit en moi pour vraiment me remplir pour que je puisse apporter ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Je suis à ta disposition et je prie, Seigneur, afin que nos cœurs aussi soient ouverts à cet enseignement que tu veux nous donner. Nous sommes tous différents, nous sommes à un stade différent de notre développement spirituel ou même de notre approche de Dieu, n'ayant pas encore pris une décision. Mais je prie, Seigneur, afin que tu nous parles à chacun. J'ai confiance que tu vas le faire et je te remercie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Métro, boulot, dodo. Vous connaissez cette expression qui est bien connue mais rendue célèbre par les étudiants pendant les événements de mai 68. Presque personne ici dans cette pièce était en France à ce moment-là. Nous l'étions. Qui était là en mai 68? Pas beaucoup quand même. C'est vrai? Oh, mai 68, tu n'es pas assez âgé pour ça, donc. Alors nous, arrivés des États-Unis depuis 3 ans et des poussières seulement, on se demandait ce que c'est que cette France dans laquelle nous sommes tombés pour avoir un service pour le Seigneur. Et c'était la devise que les étudiants avaient prise, métro, boulot, dodo. Devise plutôt triste et désespérée, une critique de la monotonie et de la répétition d'une vie quotidienne qui est morose, monotone et sans issue. Mais je voudrais vous poser une question aujourd'hui, parce que c'est très bien de nous rappeler 68 et encore quelques personnes qui ont toujours cette idée de la vie. Comment est votre expérience dans l'Église? J'espère que ce n'est pas dodo. Je ne vois personne qui parle, en tout cas, qui dort, en tout cas. Mais est-ce chanter, prêcher, témoigner, prier, semaine après semaine, après semaine, après semaine, ad nauseam? Comment est votre expérience dans l'Église? Est-ce cela, la vie de l'Église pour vous? Une routine monotone? Si c'est votre cas, vous ne connaissez pas une vie d'Église variée, joyeuse, avec de multiples facettes belles et agréables que le Seigneur désire pour vous. Une vie qui nous apporte une vraie plénitude dans une relation vitale avec nos frères et sœurs en Christ. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Bon, c'est vrai que 14 heures le dimanche après-midi, c'est pas le top de ma forme, disons. J'étais à même comme cela à la fac, les cours de 13 heures étaient mortels. J'ai des notes où ça commence à être illisible parce que le crayon a glissé sur le papier. Non, mais on est 15 heures maintenant, donc le moment de sieste est terminé. Donc voilà, on est tous attentifs, moi aussi. Une vie qui nous apporte une vraie plénitude dans une relation vitale avec nos frères et sœurs en Christ, c'est ça la vie de l'Église. La vie de l'Église locale est le reflet de son chef, Jésus-Christ. Et c'est une vie de plénitude, de joie, de variété. Si ce n'est pas ça, à quoi bon être chrétien? Quel est le témoignage que nous présentons devant nos frères, nos amis dans le monde? Autant aller fêter, faire des bêtises et tout, comme eux, parce qu'on n'a rien de plus, si c'est ça, la vie de l'Église. Mais la vie de l'Église, mes frères et sœurs, est tout sauf monotone. Le passage devant nous ce matin aborde seulement deux aspects ou facettes d'une vie d'Église qui existe et qui vit pour la gloire de Dieu. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, mais on m'a donné ce passage qui parle de la prière et du rôle de la femme dans l'Église locale. Et ces deux aspects, donc, comme j'ai dit, et c'est en deux parties, la place centrale et primordiale de la prière dans la vie de l'Église et le rôle et la vie de la femme dans l'Église locale. Alors, ce passage est assez dense. Et comme vous verrez, je ne vais que gratter la surface de ces deux questions. On pourrait avoir une semaine de colloque sur ces sujets et on n'aurait pas terminé à en parler. D'abord, la place centrale et primordiale de la prière dans l'Église. Alors, Paul arrive tout de suite il frappe dans le mille. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. La première exhortation de Paul dans ce chapitre, c'est prier. Je ne sais pas si vous savez prier en tant qu'Église. Je ne sais pas si vous savez vraiment être en relation, en contact avec notre Dieu et prier. Bon, il y a peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas consulté le programme de l'Église, une réunion de prière dans l'Église, je ne sais pas. Ou des groupes de maison où on prie. Chaque Église fait un petit peu à sa manière dans ce sens-là, mais l'important c'est de prier. Et Paul précise comment prier et pour qui nous devons prier. D'abord, comment prier? Il dit, avec des requêtes, des prières, de l'intercession et des actions de grâce. Bon, ben, écoutez, bon, le Seigneur, le semeur est plus précis. Des demandes, des prières, des supplications et des remerciements. Je ne, loin de moi, d'améliorer l'apôtre Paul. Mais si j'avais à ajouter quelque chose, ce serait, personnellement, j'aime commencer par louer Dieu et demander le pardon de mes péchés. Parfois, quand je m'approche de Dieu, tout n'est pas en règle avec lui. Quand je m'approche de Dieu, j'ai envie de dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il a fait pour moi, et de déborder de reconnaissance. C'est comme ça quand je prie. Mais je me rends compte que parfois, il y a un petit truc dans ma vie qui ne m'y a pas plu. Hein? Vous savez que quand ça arrive avec ma femme, vous savez ce qu'il faut faire. Alors Clément et Tatiana pourront vous dire, parce qu'ils ont une bonne préparation au mariage. Donc, quand on est un peu brouillé avec quelqu'un, il faut dire, j'ai eu tort, pardonne-moi. Et je dois le faire avec Dieu. Pourquoi lui apporter toutes mes demandes, toutes mes requêtes, toutes mes supplications, etc., quand il y a cette petite gêne entre nous? Donc, je trouve qu'il est bien de commencer en louant Dieu et en confessant nos fautes. Et puis, des requêtes, des prières, de l'intercession, et bien sûr, baigner dans des actions de grâce. Nous avons tant de choses, tant de raisons pour remercier Dieu. C'est comme cela que nous devons prier. Mais pour qui prier? Premièrement, il dit pour tous, pour tous les hommes. Alors, je ne pense pas que ce mot « homme » soit restrictif au sexe masculin. Je pense qu'il n'est pas interdit de prier pour les femmes et pour les enfants. Enfin, pour tous. D'abord, plus précisément, Paul explique quelque chose. Il précise au verset 2, les rois, et pour tous ceux qui occupent une position supérieure. Paul nous exhorte à prier pour les autorités. Bon, on n'aime pas ce mot, autorité. Dès qu'on dit autorité, ben, on est contre. C'est la nature humaine. On a dit que c'est très français. Moi, je trouve que c'est très, très humain. Et on n'aime pas l'autorité. On n'aime pas cette soumission biblique à la personne au-dessus de nous. Mais Paul dit que nous devrions prier pour ceux qui nous gouvernent. Et vous savez, il a dit ça, c'était pas la 5e République, hein? C'était pas la démocratie. C'était un gouvernement romain, un empire qui écrasait les chrétiens. Et Paul dit, priez pour ceux qui nous gouvernent, qui sont au-dessus de nous. Aujourd'hui, Paul nous demanderait de prier pour le président, pour le premier ministre. Déjà là, on dit, je n'aime pas sa tête. Bon, ben, ça dépend de votre politique. Hein. Bon, ben, je ne fais pas de politique, mais il y a des gens, le président, bon, ben, premier ministre, bon, ben, il faut changer ces deux-là. Bon, ben, et puis on change, et puis on ne l'aime pas non plus. Bon, ben, c'est continué comme ça. Pour notre député, pour notre sénateur, pour le maire de Saint-Maur. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. On devrait prier dans l'église de Saint-Maur pour les autorités de la commune et pour les autorités de la nation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vrai? Je vous donne le choix. Paul dit que nous devrions prier pour nos autorités. J'ai honte de vous dire, mes frères et sœurs, que dans les églises que j'ai fréquentées et où j'avais des responsabilités, on a très peu prié pour les autorités. Et je dis ça à ma honte. J'entends rarement la prière pour nos autorités, et c'est tout de même une exhortation biblique. On a quelque part l'idée que l'Église et la politique, c'est deux choses séparées. C'est vrai, l'Église ne fait pas la politique, mais ce n'est pas faire de la politique de prier pour nos autorités. Et Paul donne la raison principale pour la prière pour les autorités. Pour pouvoir mener une vie paisible et pieuse. La semeur l'explique ainsi, « Afin que nous puissions amener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement de Dieu et qui commande le respect. » Vous savez, un bon témoignage chrétien, c'est avoir du respect pour nos autorités. Le respect est toujours de mise dans l'Église de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la liberté de culte que nous avons en France. Nous devrions prier pour que cela continue, parce que cela n'a pas toujours été le cas. Et un jour, ce ne serait peut-être plus toujours le cas. Remercions Dieu pour cela. Et puis Paul ajoute deux autres raisons. Parce que tout simplement, prier de cette manière est bon et agréable à Dieu notre Sauveur. Est-ce que vous voulez être agréable à Dieu? Alors, priez pour les autorités. Parce que c'est agréable à Dieu de le faire. Deuxièmement, Dieu désire que nous de tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que les gens qui nous gouvernent soient sauvés, tout comme les autres hommes. Oh, je sais que... Parfois, on est exaspéré, on a jusque-là, on dit, mais ces gars-là, hein, ils n'ont rien compris. C'est des païens, c'est des gens qui ne respectent pas Dieu, qui font n'importe quoi, ils ont une moralité qui est épouvantable, et ainsi de suite. Nous pourrions continuer longtemps, mais je ne vais pas le faire. Mais ils ont besoin d'être sauvés. Et si nos autorités étaient sauvées? Ben, je ne dis pas qu'ils devraient imposer leur croyance dans une démocratie. Mais je pense que ça changerait certaines choses dans notre pays. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même le président de la République, le premier ministre, votre député, votre sénateur et le maire de votre commune. Il veut qu'eux aussi soient sauvés. Et il y en a qui ont été sauvés à travers l'histoire de ce monde. Et c'est à la gloire de Dieu. Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et où est la vérité de nos jours? Nous avons la vérité dans la parole de Dieu. Bon, il y a certainement des vérités qui ne sont pas là. Il y a des vérités scientifiques qui ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu, mais qui ne se trouvent pas dans la Bible. Mais il veut que les gens viennent à la connaissance de la vérité telle que nous la trouvons dans la Bible. Et Paul dit cela à Timothée, qui est à Éphèse, dans un contexte où de faux enseignements avaient été introduits dans l'Église. Et Paul rappelle que le salut est associé à la connaissance de la vérité. Sans la connaissance de la vérité que nous avons dans la Bible, comment pouvons-nous être sauvés? Il n'y a que dans notre relation avec Dieu par le Christ que nous pouvons connaître la vérité spirituelle, la vérité sur l'homme et sa nature, sa destinée, son salut. Paul rappelle justement une vérité importante. Jésus, qui a donné sa vie en rançon pour nous, est le seul intermédiaire entre le Père et les êtres humains. C'est intéressant, je trouve que pas mal de gens aujourd'hui prient directement Jésus. Je ne dis pas qu'on a tort, mais la Bible ne nous enseigne pas tellement à prier Jésus, mais plutôt le Père, au nom de Jésus-Christ. Alors là, bien sûr, dans nos prières, puisque nous sommes pieux et nous sommes chrétiens, nous terminons nos prières au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est une formule pour beaucoup de gens. Mais est-ce simplement une formule? Si je prie au nom du Seigneur Jésus, amen, est-ce que je suis en train de le dire parce que J'ai l'habitude de le dire depuis, j'allais dire 68 ans et demi, mais je n'ai prié pas quand ma naissance. C'était un peu plus après que j'ai commencé à prier. Bon, ben, enfin, depuis 75 ans, disons. Non. C'est parce que si je prie au nom de Jésus, je prie parce que j'ai une relation avec Jésus-Christ. C'est comme si quelqu'un vous dit, mais écoute, vous avez besoin de cela, je connais quelqu'un à la préfecture. Tu vas lui téléphoner de ma part et tu vas dire, Jacques Dubois, pour ne pas citer un nom assez commun, Jacques Dubois m'a demandé de me mettre en contact avec vous pour telle ou telle démarche. Ah oui, Jacques Dubois, ben je le connais, c'est un grand ami, merci si vous venez en son nom, bien sûr. Je suis prêt à vous accueillir. Parce qu'il y a une relation là qui existe. Et lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est parce que nous connaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui nous donne cet accès auprès du Père. La conclusion de Paul au verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Tous doivent prier en tout lieu. Bon, il dit les hommes. Après, il va parler des femmes qui doivent prier aussi, mais pour moi, il parle de tous ici. En tout lieu. La présence de Dieu n'est pas limitée à l'Église. Ce n'est pas ici que vous allez venir principalement pour parler, j'espère, parce que j'espère que vous priez beaucoup plus en dehors de l'Église que dans l'Église. Dieu est partout et nous pouvons lui parler n'importe où. J'ai le bonheur d'habiter tout près d'un bois qui s'appelle le bois de Logne. Pas de Boulogne, mais de Logne. Bon. Et j'y vais tous les jours pour une bonne marche à pied. C'est la santé. Mais c'est mon moment de prédilection pour la prière. Parce que je peux passer du temps avec Dieu dans ce temple créé par Dieu où je peux le rencontrer et lui parler. Et quand je dis lui parler, je veux dire que je lui parle. J'ouvre mon cœur et Dieu me parle. Oh, je n'entends pas forcément sa voix, mais je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que là, je pourrais rester longtemps à parler de cela. Mais Dieu met dans mon cœur des passages bibliques appris. Il met des leçons que j'ai apprises sur lui dans le passé. Il me parle. Il y a un retour quand je prie Dieu. Nous devons prier dans la pureté, sans colère et sans contestation. Là, à l'église d'Éphèse, Timothée a dû faire face à des enseignants de mensonges qui avaient infiltré l'église. Et les moments de prière étaient donc parfois tendus et controversés. On ne peut pas bien prier dans ces circonstances-là. Nous avons besoin de chercher l'unité dans le Saint-Esprit. Et dans nos églises, la controverse empêche la puissance de Dieu dans la prière. Je suis sûr que ce n'est pas le cas ici, mais que vous avez une unité dans l'Esprit qui permet à ce que la prière soit forte et bénie. Mais ce passage de 1 Timothée 2, comporte non seulement une exhortation à la prière, mais c'est la partie que vous attendez surtout. Une deuxième exhortation de Paul qui concerne le rôle de la femme dans la vie de l'Église. Paul donne principalement deux recommandations à la femme dans ce passage. Je vais passer la parole à ma femme pour qu'elle explique ce passage. Est-ce que ça va pour vous? Non, je ne vais pas le faire. D'ailleurs, elle n'accepterait pas du tout de le faire. Je dirais que sur une échelle de Niet Ada, je suis plus, un peu plus proche de oui que de non, et ma femme est un peu plus proche de non. Bon, enfin. D'abord, Paul s'adresse à la question du témoignage de la femme. De même aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, se parent. Non pas de tresses d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. De même, aussi, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il vient de parler du fait de prier, que les hommes doivent prier, que tout le monde va prier, etc. Il dit de même, aussi, c'est-à-dire que comme pour les hommes, les femmes aussi doivent se donner à la prière. Elles doivent être comme les hommes dans ce sens-là. Paul encourage les femmes d'être des femmes de prière. Le deuxième aspect de leur témoignage, premier, ils sont être des femmes de prière. Deuxième, concerne leur tenue vestimentaire. Ah ah! On ne va pas trop regarder la voisine en parlant de cela. Mais il dit qu'elle s'habille décemment. Ma femme trouve qu'il est très difficile pour une femme de son âge de trouver une jupe de la bonne longueur. Pour les jeunes femmes, c'est peut-être un peu différent, mais jusqu'où est la limite de la discrétion, la simplicité et la pudeur. Difficile de nos jours, surtout pour les femmes qui veulent suivre la mode. Si encore il y a une mode qui est la norme, parce que j'ai l'impression que c'est pas un peu n'importe quoi de nos jours. Mais que la femme s'habille décemment, avec discrétion, simplicité et pudeur. Dans un mot, et je résume cela par cette phrase, évitez d'attirer l'attention des autres par une tenue ostentatoire. Je pense que c'est ça. Joyce dit souvent, c'est ma femme au cas où vous ne saviez pas, Joyce est ma femme. En regardant une femme, elle dirait, et moi j'ai appris à le dire aussi, hein, bon, elle est tout simplement élégante. Et elle est élégamment simple. La simplicité. La simplicité peut être vraiment élégante. Écoutez, je n'ai pas pensé à ça, ce n'est pas dans mes notes. Mais en regardant donc des extraits de chants de l'Église anglicaine récemment, hier soir même, j'ai vu juste rapidement la sœur de Kate lors du mariage de William et Kate. Vous avez vu sa robe? Bon, les hommes, ça ne vous intéresse pas, mais enfin, ça devrait, parce que franchement, hein. Mais vous avez vu sa robe? Mais écoute, il faut aller sur YouTube et regarder la robe. La robe de Pippa, la sœur de Kate. Elle est d'une simplicité, mais incroyable. Elle a presque surclassé sa sœur, la mariée, dans ce mariage. Qui est-ce qui a vu ça? Il n'y en a pas beaucoup, ben dis donc. Moi, je l'ai regardé avec ma femme et j'ai dit, oh là là, ben dis donc, quelle beauté. Mais c'était la simplicité. Ce n'était pas ostentatoire. C'était simple. Et ma femme a expliqué comment c'était. Bon, mais je n'ai aucune idée, mais elle connaît la couture, donc elle a dit comment ils sont arrivés à faire une robe comme ça. Alors, on pense souvent à être ostentatoire. Et ça, c'est un non-non. Mais la femme qui dit, oh, je suis chrétienne, qu'importe la manière dont je m'habille, ça, c'est pas bon non plus. Il faut aussi faire attention à ne pas avoir une tenue négligée, des vêtements qui sont un peu sales et dégoûtantes en disant « bon, ben, je suis chrétien, donc ben, je ne fais pas attention à ce que je porte ». Si vous devriez faire attention à ce que vous portez, nous tous, hommes aussi, en fait. Bon, je sais que c'est la mode d'avoir des jeans, d'acheter une paire de jeans qui est complètement déjà ravagée quand on l'achète. Donc, bon, ben, dans ma petite tête, je ne comprends pas pourquoi on va payer de l'argent exprès pour ça. Donc, une paire de ciseaux, c'est déjà fait. Vous donnez ça à votre chien et puis c'est fait rapidement. Bon. Non, elle ne doit pas non plus attirer l'attention par une tenue négligée, croyant faussement que son apparence n'a pas d'importance. À mon avis, le port de bijoux n'est pas interdit, mais la femme ne doit pas trouver sa valeur dans ce qu'elle porte, ni les porter de manière ostentatoire, sauf peut-être les nouvelles fiancées qui vont entrer dans la pièce le doigt, 3/4 doigt d'abord. Ça, on accepte, mais c'est à peu près la seule circonstance. Bon, non, mais que nous habillions tous convenablement. La femme, et l'homme aussi d'ailleurs, doit être reconnue surtout pour ses œuvres bonnes et pour sa piété. C'est là où elle trouvera sa vraie valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de tous. Puis, Paul donne sa deuxième recommandation aux femmes. Jusque-là, ça a été facile, hein? Bon. Et il arrive à la question difficile de la femme et de son enseignement au sein de l'Église. Et Paul dit 4 choses. Elle doit s'instruire en silence. La semeur le traduit, que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix. Donc, elle doit être instruite dans un esprit de paix, paisiblement. Deuxième chose, elle doit s'instruire avec une entière soumission. Elle doit être soumise aux autorités de l'Église, et peut-être aussi de son mari. Certains passages diraient ça. Troisième chose, Paul ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, c'est au verset 12. La semeur le traduit, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Quel était le passage que tu as lu tout à l'heure? Où est-ce qu'il est? Voilà. C'était pas mal cette traduction-là. Bon, enfin. Mais j'ai oublié, je ne sais pas quelle version que c'était. Ah, voilà, où est-ce qu'on est? Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Donc, c'est enseigner de manière à vraiment dominer sur l'homme. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir remis ce verset. Quatrième chose. Elle doit demeurer dans le silence, c'est-à-dire garder une attitude paisible. Alors, comment comprendre ce que Paul dit sur l'enseignement de la femme? En leur disant de garder le silence ou de s'instruire dans la paix, certains pensent qu'il s'agit, c'est curieux, mais c'est, je trouve que c'est pas mal du tout, qu'il s'agit de ne pas déranger la réunion en demandant une explication à son mari. C'est le cas dans 1 Corinthiens 14, 35, où Paul dit à la femme d'interroger son mari à la maison. Souvent, les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre. Vous savez, dans les synagogues, les femmes n'étaient même pas là du tout, et elles étaient un peu sur le balcon derrière un écran. Bon. Mais là, dans l'Église, probablement, les femmes étaient séparées des hommes. Et si la femme avait une question, elle dit « Hey, chérie, ben, qu'est-ce que ça veut dire? » Bon, mais non, mais ça n'allait pas. Ben, le culte était quand même dérangé, la réunion n'était pas paisible, elle devrait quand même le faire dans la paix et elle devrait interroger son mari à la maison. Il est évident que Paul ne demande pas le silence total pour une femme pendant le culte dans toute situation. Paul ne dit pas que la femme ferme la bouche pendant le culte et qu'elle ne pipe pas un mot. Il ne dit pas ça. Paul autorise, il encourage même les femmes à prier. Verset 9, « Je veux que les femmes agissent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elles prient. » C'est ce qu'il veut dire, que les femmes prient dans l'Église. Ailleurs, dans 1 Corinthiens 11, 5, Paul ne leur interdit pas de prophétiser, à condition d'avoir la tête couverte. Ma femme aimerait bien ça, parce qu'elle trouve que les chapeaux sont beaux. Bon, enfin, mais la femme peut prophétiser. Et elle peut aussi être diacre. Elle peut servir dans l'Église. Nous constatons aussi une certaine souplesse dans l'enseignement de la Bible. Dans les Actes, nous lisons que Prisca, qui est une femme d'ailleurs, et Aquilas ont enseigné Apollos. Et Prisca, ou Priscille, est toujours mentionnée en premier. Prisca et Aquilas, Prisca et Aquilas. Et ça n'a pas l'air de déranger Paul que Prisca ait enseigné Apollos. Bon, ma femme a dit oui, ce n'était pas dans l'Église. Wow, quand même. Wow, elle a enseigné. Est-ce qu'elle prenait l'autorité sur Apollos? Je ne pense pas. Dans l'Ancien Testament, Déborah était juge. D'ailleurs, elle était plus forte que son collègue, qui avait peur d'aller à la guerre. Donc, elle a dit, bon, OK, j'irai, mais Barak, il était un peu poltron à ce moment-là. Bon. Et c'est Déborah qui a pu vaincre dans ce cas-là. À l'époque de Jérémie, il y avait la prophétesse qui s'appelait Hulda. Il y en avait d'autres aussi dans l'Ancien Testament. Donc, je pense que Paul parle ici d'une situation qui est quand même un petit peu particulière et à ne pas généraliser partout, dans chaque situation, à chaque instant. Ma conclusion est que dans l'église d'Éphèse, comme à Corinthe aussi, qui était une église pleine de problèmes, il y avait un certain désordre pendant le culte et Paul, dans ce passage, demande surtout que cela cesse. Pas de désordre, mais que la femme apprenne paisiblement. Mais comment comprendre ce que Paul dit concernant la prise d'autorité sur l'homme? C'est peut-être là le problème le plus difficile. Dans son enseignement sur l'autorité, Paul cherche à respecter et à garder l'ordre créationnel, c'est-à-dire que l'homme a été créé d'abord et puis la femme. Et Paul aussi dit, et c'est biblique, que le mari est le chef ou la tête de la femme. Vous savez, chef peut dire tête. Vous savez ce que c'est un couvre-chef? C'est un chapeau qu'on met sur la tête. Bon, il est la tête ou enfin l'autorité sur la femme, tout comme le Christ est le chef de l'homme. Lui aussi a une autorité. Mais on oublie ça quand on parle d'hommes et de femmes. On oublie que le mari, il est drôlement sujet à sa tête qui est Christ. Il ne faut pas l'oublier. À l'époque de Paul et dans le monde de son époque, il semble que l'enseignant était toujours un homme et qu'il avait une position d'autorité sur la femme que la femme ne devait pas prendre. Donc, à l'époque, l'homme était l'enseignant, il avait une position d'autorité, et la femme ne devait pas la prendre. Sans faire du tort au texte biblique, et là je vais sur les pointes des pieds, il reste à voir si de nos jours, l'enseignement par une femme représente toujours une vraie prise d'autorité. Bon, c'est une proposition que j'avance et je ne veux pas faire du tort au texte biblique. Ou bien, a-t-elle le droit d'enseigner sous l'autorité des anciens ou d'un conseil d'un institut public, leur étant soumise? Il y a des instituts publics où il n'y a pas de femme professeur. Il y en a qui en ont. Il y a des églises où la femme, sous la responsabilité des anciens, est autorisée à prêcher, à prendre la parole. Mais enfin, la question de l'enseignement de la femme et de sa prise d'autorité a fait couler beaucoup d'encre de nos jours. En général, et j'arrive vers la fin de ma prédication, donc ne vous inquiétez pas. En général, on peut trouver trois positions sur la question. La position traditionnaliste. Cette position ne permet aucun enseignement par une femme dans l'Église, ni dans les instituts bibliques, et ainsi de suite. Les positions varient entre ceux qui disent « jamais une femme derrière la chair » ou « derrière le micro ». Il y avait des femmes derrière le micro aujourd'hui, bon, ben ça n'avait pas gêné qui que ce soit, je ne sais pas, mais bon, voilà. Jamais, jamais ça, je connais un pasteur qui dit « dès qu'il y a une femme derrière la chair, je m'en vais ». Bon, ça c'est radical, mais c'est la position traditionnaliste vraiment poussée à l'extrême. Donc, et puis il y a ceux qui permettraient à une femme de donner son témoignage, comme on est aujourd'hui, ou autre chose, etc. Et bien sûr, elle peut enseigner les femmes et les enfants. Donc, ça c'est la position traditionnaliste. La femme ne prêche pas, elle ne participe pas beaucoup pendant le culte. Il y a la position modérée. Et selon cette position, donc traditionnaliste et ensuite modérée, selon cette position, la femme a le droit d'enseigner à la demande des anciens de l'Église. De cette manière, elle est soumise à l'autorité de l'Église. Elle ne prend pas une position d'autorité elle-même. Elle ne prend pas l'autorité sur elle-même, elle est soumise aux anciens et à l'Église. Il y a une position qui s'appelle égalitaire, et là, la femme est l'égale de l'homme sur toute la ligne, parce qu'en Christ, Galates 3, etc., il n'y a ni homme ni femme, etc., ni esclave ni libre. Bon, mais je trouve que là, on n'est pas tout à fait dans le contexte de ce passage, mais il y a des personnes qui disent, non, il n'y a ni homme ni femme, Dieu a aboli la différence entre les hommes et les femmes. Bon, mais pas physiquement, bien sûr, ou d'autres manières, mais enfin, moi, je suis content de la différence, mais enfin, mais pour l'autorité, des questions d'autorité, de responsabilité et tout ça, égalité sur toute la ligne, même droit et responsabilité pour l'homme et pour la femme. Un point, c'est tout. Bon. Donc, vous avez le choix, traditionnaliste, modéré, égalitaire. Je ne prétends pas prendre position devant vous. N'étant pas membre de l'Église de Saint-Maur, il ne convient pas pour moi de vous instruire sur les mérites de telle ou telle interprétation. Mais j'espère vous avoir donné quelques pistes pour votre réflexion sur cette question qui est importante dans la vie d'une Église épanouie. Je termine. Et je voudrais juste dire quelques mots en terminant. J'ai commencé mon message en disant que la vie d'une église locale est le reflet de son chef Jésus-Christ et que c'est une vie de plénitude, de joie, de variété. Cette vie est tout sauf monotone. Mais pour cela, il doit régner une vie d'ordre dans l'église. Je citerai deux passages de Paul qui nous aideront à avoir une vie de plénitude et de joie dans l'église parce que l'église vit dans l'ordre. 1 Corinthiens 14, 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et comme ça, on a le beau culte, et le bon culte, et le culte qui édifie. On a une relation qui édifie. 1 Corinthiens 10, 31, et c'est le mot de la fin, vraiment, pour tout. C'est là que nous, la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que dans votre vie, tout ce que vous faites est pour la gloire de Dieu? C'est ça le mot de la fin. En anglais, on dit « the bottom line ». Vous avez entendu ça? Ça veut dire le mot de la fin. Que ce soit donc le désir de chacun. Ainsi, nous aurons une vie d'Église dans une véritable joie et la plénitude que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants, et qui sera un témoignage puissant pour ceux du dehors. Où est-ce qu'on peut aller et trouver un groupe de personnes qui s'aiment et qui vivent dans l'harmonie et dans l'ordre? C'est rare de nos jours. Mais c'est ça l'Église qui glorifie Dieu. Que Dieu vous encourage, qu'il vous bénisse, chacune et chacun, dans votre vie d'Église. C'est ma prière pour vous. Amen.